Voilà, je continue avec la deuxième et la troisième célébration. Vous comprenez que la version de l'Exode que nous avons, c'est après une longue maturation. Le peuple a dû probablement raconter très longtemps ce qui se passe, les traditions. D'une famille à l'autre, on a raconté ces traditions, et il fut un temps où il était nécessaire de les mettre par écrit. C'est probablement au retour de l'exil, pendant l'exil et au retour de l'exil. Et donc, on a la difficulté des rédacteurs, je les mets au pluriel, des rédacteurs finaux, de garder à la fois les traditions qui sont imagés, qui sont jolis, comme le petit Moïse, la fille de Pharaon, la maman qui va nourrir son enfant, mais qui va pour finir le céder, et puis cet adolescent qui est éduqué à la cour du Pharaon, mais qui finira par tuer un des gardes Chiom qui s'en prend à un hébreu qui travaille. Tout ça, c'est des petites histoires qu'on ne voudrait pas louper parce que c'est ça que les enfants retiennent. Alors, on met ces histoires, mais on a quand même envie d'avancer parce que c'est l'Exode. Donc c'est normal que... Alors, il y aura des moments où on va approfondir un thème théologique. C'était le cas avec le Yud-He, Vav-He. Et puis, il y a d'autres moments, c'est le cas avec la deuxième célébration, où il faut qu'on avance pas à pas. Et voici. Alors, j'aime bien l'hébreu parce que on vient de finir le texte précédent par « il les fit sortir ». Donc, on a la notion d'exode. Alors, dans le « faire sortir du peuple », voyez, on a traduit à la Tob « laissa partir », mais gardez cela. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais la Tob, oui, je sais pourquoi, parce que j'ai travaillé aussi avec l'équipe de relecture de la Tob. Le français n'aime pas les répétitions trop fréquentes. Par exemple, le français ne supporterait pas que le chantre chante le chant des chants. Alors que plus il y a des répétitions, c'est comme un ricochet, plus l'hébreu est content. Il a acheté son caillou, puis ça fait des tas de ricochets, plus il y en a, plus ça fait de la poésie. Donc, il n'y a jamais le mot israélite. C'est toujours le peuple d'Israël. De temps en temps, dans mon discours, j'essaye de mélanger le peuple de la Bible, c'est-à-dire une relecture des rabbins après l'exil et le peuple d'Israël. Ça, c'est le texte original. Donc ici, Pharaon laissa partir les Israélites. Et alors, respectons le choix de la Tob. Quand, à partir de maintenant, vous avez Elohim dans le texte, la Tob dit Dieu. Tout simplement parce que le choix, ça avait été longuement discuté au comité rédactionnel de la Tob. Le choix permet, si vous mettez Dieu, de l'écrire avec une minuscule, avec une majuscule, avec un X au pluriel. Bref, c'est très générique, Dieu. Et donc, la Tob dira Dieu quand il s'agit d'Elohim, et la Tob mettra « Seigneur » quand il s'agit de « Yud-He, Vav-He, Y-H, W-H ». Et là, les deux textes se mélangent, vous allez voir comment. Dieu, donc Elohim, ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Alors, vous permettez, l'archéologue, là, il bondit. Parce qu'on connaît très bien le chemin des Philistins. Et nous sommes à Lausanne, et ceux qui font depuis la Tour Aldiman le petit chemin en direction de Puy et de Poney, vous savez que ça s'appelle le chemin des douaniers. J'ai fait des dizaines de fois ce chemin, surtout quand j'étais gamin. Je n'ai jamais rencontré un douanier. Mais ça a du sens. Dire le chemin des douaniers, c'est dire que aucun des propriétaires qui a un terrain au bord du lac n'est propriétaire du bord du lac. Donc il faut laisser les douaniers passer. Chemin des Philistins, ça veut dire qu'il y a des Philistins qui passent. Mais attendez, les Philistins, ils ne sont pas encore dans le coin. Et surtout, ils n'ont pas du tout armé toute cette route qui existe en effet à partir du 7e, 8e siècle, au bord de la mer Méditerranée et qui va en gros du delta du Nil jusque dans le territoire de Gaza. La seule forteresse qui reste aujourd'hui, c'est Gaza. Tout le reste de cette Méditerranée, vous pourriez regarder ça en sortant tout à l'heure sur la carte là-bas au fond, tout le reste, ben, c'était du désert. Et ça s'explique d'autant mieux que le vent soufflant du sud, il érode la montagne du Sinaï, et tout ça part en sable, et ça fait une bande de sable importante que vous pouvez encore voir aujourd'hui si vous passez à l'est du delta du Nil et que vous passez le canal de Suez, qui est une invention moderne, et puis que vous continuez du côté de la riche puits de Gaza, c'est tout ça, c'est du sable. Donc, on va... Il ne veut pas les conduire du côté du chemin des Philistins, qui est pourtant plus proche, parce que ils craignaient en effet que le peuple effrayé par les combats à livrer ne change d'avis et revienne en Égypte. Historiquement, ça ne tient pas. Spirituellement, ça tient. Parce que dans cette sortie, vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. Et c'est la même chose dans notre vie, chers amis. On sait ce qu'on quitte, mais à chaque déménagement, on ne sait pas si ce sera mieux. Et pourtant, on quitte. Et il y aura des combats. Et on n'est pas sûr de les gagner. Donc, vous voyez, le texte, théologiquement, il tient bien. Archéologiquement, il ne tient pas. Donc, choisissez. Et effrayé par les combats qu'il aurait à livrer, le peuple change d'avis et revienne en Égypte. Chaque fois, tu proposais tout à l'heure de faire des comparaisons avec d'autres textes, alors je vous livre certaines de mes comparaisons que vous avez dans le livre de la Genèse avec la femme de Lot. Ça vous dit quelque chose, la femme de Lot? Oui. Moi, ça me dit quelque chose. Et ça me dit encore plus quelque chose depuis qu'un de mes amis psychiatres m'a dit « Est-ce que tu as remarqué que quand tu pleures, les larmes sont salées ?» Et je dis « Oui, et alors ?» Il dit « Bien, si c'est parce que tu pleures de tristesse, les larmes sont salées. » Madame Lot, parce qu'elle revient en arrière, parce qu'elle est nostalgique du passé. Mais ce même ami m'a dit, je l'ai vérifié, je vous propose de vérifier, mais quand ce sont des larmes de bonheur, tout d'un coup, ce n'est pas salé. Vérifiez. C'est extrêmement subtil. Eh bien, l'histoire de la femme de Lot, elle sert qu'à ça. La pauvre femme de Lot, transformée en colonne de sel. Mais tous les gens que j'amène dans la région, je leur montre bien évidemment, ça, c'est Madame Lot. Et vous voyez une espèce de gros machin comme ça. Là. Mais léché, vous verrez que c'est salé. Il leur fit faire donc un détour à travers le désert. Je peux m'arrêter deux secondes à ce mot. Je vous ai déjà avoué, je ne le ferai pas trop souvent pour ne pas vous casser les pieds, que c'est une région que j'aime beaucoup. J'aime aussi d'autres régions de la Terre Sainte, mais le désert, j'aime beaucoup. Et je me rends compte qu'il y a énormément de citations du désert dans la Bible. Par exemple, on appelle le désert Negev. C'est un adjectif qui veut dire sec, aride. On l'appelle Araba. C'est un terrain que l'on traverse, qu'on ne peut pas rester parce qu'il n'est pas habitable. Mais la Bible aurait pu nous mettre le mot Negev ou le mot Araba. La Bible va inventer un mot. C'est une invention théologique des rabbins. Et alors, je vous l'ai mis sur cette feuille. Mais prononcez-le d'abord, avant de le lire. Le mot qui est employé, c'est Midbar. Lentement, Mi-de-be-re. Or, de-be-re, on connaît. C'est la parole. À écrire toujours avec un grand P en français. La parole. Et mi, c'est comme l'alpha privatif des Grecs. Ça supprime ce qui suit. C'est génial. On ne nous décrit pas en géographie physique, on ne nous décrit pas la géographie que l'on traverse. Non. En disant Midbar, l'hébreu va jouer sur un jeu qui est intraduisible en français, c'est pour ça que vous l'avez dans aucune de vos Bibles, mais intraduisible aussi dans les autres langues, c'est Bamidbar Dvar Adonai, le Moshe. Bamidbar, dans le il n'y a pas de parole, Dvar Adonai, la parole de Dieu est adressée à Moïse. Quand je vous disais qu'il est avec, même dans les lieux où il n'y a pas de parole, la parole se fait entendre. Est-ce une incitation pour nous d'aller dans des lieux sans parole ou sans le bavardage du monde dans lequel nous sommes ou de prendre distance avec tout ce qui se dit, qu'on appellera par la suite murmure, mais qui sont des coups de gueule aussi, pour nous permettre d'entendre ce qu'on ne peut pas entendre, puisqu'il y a tellement de bruit. Il fallait qu'il soit dans Bamidbar, dans le Midbar, dans le sans-parole, pour que Dvar Adonai le Moshe, pour que Moïse puisse entendre la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Vous avez toute la théologie de ce que par la suite on appellera l'Alliance. Ce lien extraordinaire entre Moïse, donc nous, et celui qui veut se faire comprendre comme étant celui qui est avec. Et ça se passe. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre Bible, mais la Tobe a de la peine à se décider. Pour une fois, elle donne la traduction juste. La mer des roseaux. C'est où la mer des roseaux? Eh bien, si j'avais une réponse, je vous la donnerais. Mais aucun exégète ne sait. Alors, pour finir, on a décidé que c'était la mer Rouge. Après tout, pourquoi pas? D'autant plus que le grec va traduire, non pas mer des roseaux, mais la mer rouge. Le latin va traduire la mer rouge. Et en 1920, quand les Anglais, qui ont le mandat sur tout le Proche-Orient, vont faire un survey, donc une carte de géographie, ils vont demander aux Bédouins comment ça s'appelle, et les Bédouins diront la mer rouge. C'est pour ça qu'on parle de la mer rouge. Ok, gardez la mer rouge. moi je préfère garder la mère de Jean parce que c'est le même hiéroglyphe qu'on a dans Moïse. Donc, il fait dévier le peuple du côté de la mer Rouge et les fils d'Israël quittèrent l'Égypte bien équipés. Et Moïse emportait les ossements de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères, « Dieu vous viendra certainement en aide, jurez-moi d'emporter alors mes ossements avec vous. » C'est qui Joseph ? Eh bien, pour parler vaudois, vous êtes refait parce qu'on ne vous dira jamais qui est Joseph. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai lu le livre de la Genèse. Oui, à condition que vous ayez le livre de la Genèse. Et cherchez bien dans le livre de la Genèse, vous ne trouverez jamais Joseph qui dit, et vous rentrerez mes ossements. Mais l'archéologue sait par exemple qu'au milieu de la Samarie, un endroit qui s'appelle aujourd'hui Naplouse, il y a un puits. Et que ce puits, vous pouvez le lier à un des personnages justement de la Genèse. Puisque aujourd'hui encore, même en arabe, on appelle ce puits le puits de Jacob. Est-ce que c'est le puits auprès duquel les frères de Joseph ont vendu Joseph à une caravane qui passait? J'en sais rien du tout. Par contre, l'archéologue critique que je suis est obligé de dire, là, c'est un des rares endroits d'Israël-Palestine où je peux vous dire, c'est le puits de Jacob qui est mentionné au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Car il n'a jamais bougé ce puits. Il a 32 mètres de profond. 32 mètres, ça fait 8 étages de chez nous, ou 7 étages de chez nous. Vous ne déplacez pas un puits, à moins qu'il soit tout d'un coup à sec. Et il a toujours été mentionné. C'est intéressant. J'aime bien relire le chapitre 4 de l'évangile de Jean à cet endroit-là. Mais je me pose toujours encore la question, et la Samaritaine, elle a quel nom ? Dans ma vie, elle a un nom. Elle en avait peut-être même plusieurs. Et dans la vôtre, vous lui donnez quel nom ? Vous voyez qu'il y a des silences dans la Bible, et ça c'est très sémite, c'est très Ancien Testament, et les évangiles sont inspirés aussi de cela. Il y a des silences qui sont nécessaires pour que vous puissiez remplir le silence. Elle n'est pas nommée, et pourtant, quel personnage extraordinaire. Alors que un chapitre avant, dans le même évangile de Jean, on nomme Nicodème, et il est nommé, et il est connu pas seulement de l'évangile, il est connu par exemple dans la tradition juive, c'est un des membres du Sanhédrin, et il a vécu à l'époque de Jésus. Donc l'existence de Nicodème, elle est prouvée. Mais Nicodème, qui pourrait être parfois Jean-Bernard, va voir de nuit Jésus, mais n'ose pas lui poser les mêmes questions que la Samaritaine lui pose. Quel merveilleux personnage! Voilà, nous sommes donc dans cette situation entre Soukhot et Etam. Si ça ne vous dit rien, je dirais entre, je ne sais pas, Podé et Lutry. Il faut être du coin pour connaître ça. Demandez aux archéologues, ils ont beaucoup fouillé dans le delta du Nil. S'ils ont retrouvé Soukhot, non. S'ils ont trouvé Elim, non. Mais peut-être Pi Ramsès. On y viendra tout à l'heure. Et puis de là, ils levèrent le camp, ils viennent jusqu'à Etam. C'est à l'extrémité du désert. Là encore, ne tombez pas dans le piège de vouloir localiser cela sur une carte. C'est à l'extrémité de nulle part. Au-delà, je n'ai plus de repère, parce qu'il n'y a midbar, pas de parole. Voyez, on arrive avec l'hébreu, on arrive avec nos traductions très vite dans notre quotidien. Il commence où le lieu sans parole? Peut-être là où je commence à ne plus supporter le sans parole et que je le meuble avec plein de bavardages. Mais ce n'est pas une parole. Et à partir de là, il ne s'agit plus de Dieu, verset 21, il s'agit de YHWH. Parce que si je m'aventure dans un lieu sans repère, il faut bien qu'il y en ait avec nous pour m'indiquer par où ça passe. Verset 21, le Seigneur les précédait. Et là, chers amis, c'est superbe. Moi, alors, comme gamin, j'appréciais vraiment beaucoup que Dieu nous donne un signal de jour et un signal de nuit. Ça ne peut pas être le même, parce que de nuit, je ne vois pas ce que je vois de jour, et de jour, je vois des choses que je ne vois pas la nuit. Alors, on va inventer en français un mot que les Allemands n'ont pas traduit. Ils ont mis le mot « nuage ». L'hébreu dit tout simplement « quelque chose de... » C'est pas matériel, mais c'est visible. Et pour ne pas confondre avec ce qu'on voit de nuit, on n'a pas mis de la fumée, mais on a mis « nuée ». Mais c'est quoi la nuée? Vous pouvez m'en apporter un kilo, bien en parler, comme ça, c'est... Non, c'est le signe qu'il est avec. Le Seigneur les précédait deux jours dans une colonne de nuée pour les guider le long du chemin et deux nuits dans une colonne de feu pour les éclairer. Et la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais de les précéder. Il est là. Mais il est tellement discret qu'il ne va pas nous apparaître. Il va nous manifester sa présence à travers des signes. Et il ne cessa de précéder le peuple. Oui, là aussi, on peut se poser des tas de questions. Où est-ce que je mets ma confiance? Qu'est-ce que vous dites lorsque vous prononcez le Notre Père? Que ta volonté soit faite. Vous la voyez, la volonté? Pourtant, vous ne pouvez pas prier le Notre Père sans vous dire que je dois quand même comprendre ce qu'est sa volonté. Et c'est pas abstrait. Oui, c'est vrai qu'en français, ça risque vite d'être abstrait. J'en dirai pas plus et je vous propose tout de suite de passer à la troisième célébration.